Alors, bon après-midi à tout le monde. Je n'ai jamais pensé que je serais un jour la deuxième personne la plus grande à prendre la parole dans une assemblée. D'abord, je me souviens d'avoir eu à l'esprit l'idée que je n'aurais jamais pensé avoir un gendre dans le ministère. Et la première fois qu'il a pris la parole, je crois que c'est moi qui avais donné le sermon. Et le fait de pouvoir parler en même temps que un gendre, et c'était quelque chose de vraiment étonnant pour moi. Et aujourd'hui, je dis et je pense à nouveau que jamais je n'aurais pensé pouvoir prendre la parole lors d'un service avec en même temps que mon fils, que ce soit un ou l'autre. Et je me souviens qu'il y a un certain temps, alors qu'on regardait la façon dont il vivait, ça ne paraissait pas être une possibilité du tout. Alors c'est tout à fait extraordinaire de voir ce que 500 livres de métal qui tombent sur la tête de quelqu'un fait à la façon de penser. Alors après que cette chose-là lui soit arrivée, on a pensé qu'on pourrait l'utiliser pour prendre la parole. Alors non, je me fais juste un peu quelques blagues ici. Et je lui suis aussi reconnaissant d'avoir mentionné qu'il va permettre au grand-père de s'occuper de sa petite-fille à la fête. Alors, en fin de compte, j'aurai l'occasion de danser avec une dame à la fête. Alors, peut-être que la petite va se frapper le nez sur mes rotules. Et puis, quand on y pense, nous allons être presque cinq à la fête, n'est-ce pas? Et par la même occasion, je devrais sans doute mentionner le fait que nous allons frapper sans doute les 12 millions de téléchargements cette année. Il est possible que nous allions encore plus haut, mais si je me souviens bien, M. Rogers avait mentionné 11 ou 15 millions. Alors, je parle de l'homme ici qui avait dit que nous atteindrions des chiffres incroyables. Il a dit ça il y a 4 ou 5 ans de cela. Alors, à cette époque, c'était quelque chose qui nous semblait impossible. Alors, peut-être que nous nous sommes moqués un peu de lui, peut-être parce qu'il se mettait dans la position de prendre le poste d'un des deux témoins et qu'il commençait à prophétiser trop tôt. Mais si on regarde de façon littérale les chiffres qu'il a mentionnés à cette époque-là, en réalité, si on regarde comme il faut, même pâlissent à côté de ce que nous avons. Ensuite, au fur et à mesure que nous avons davantage d'orateurs, tant ici qu'au quartier général qu'ailleurs, un peu partout, cela signifie qu'il y a plus d'occasions qui se présentent maintenant. Et si nous avons davantage d'études bibliques et plus de demi-sermons aussi, alors cela signifie que je peux faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Et ça signifie donner moins de sermons que j'en ai donné auparavant. Il n'y a aucune raison pour que je puisse donner ou que je continue de donner 80% des sermons comme j'ai fait jusqu'aux premières années de l'EDR. Alors nous avons maintenant des hommes qui sont en pleine croissance et qui font un excellent travail à ce sujet. Nous avons des gens qui font un excellent travail. Nous pouvons dire que nous sommes dans un environnement spirituel intense et fertile, et je pourrais même dire d'une certaine façon, d'une certaine façon encore plus intense que dans le temps du Collège Ambassadeur. Donc, après que l'œuvre ait parcouru ces quelques années, parce que lorsque lundi prochain arrivera, l'œuvre aura 100 mois maintenant. Alors, c'est peut-être pas quelque chose à laquelle vous avez pensé, Nous avons maintenant 8 ans et 4 mois. Nous avons 100 mois. Alors, nous sommes déjà dans le cinquième jour de notre centième mois d'existence. Alors, il y a plusieurs fruits qui sont apportés. Il y a beaucoup d'hommes qui progressent. Ils font très bien et cela m'encourage. Je dis ça au nom de l'Église ici. Et je dois avouer que je suis aussi encouragé parce que je n'aurai pas à parler aussi souvent, ni même à faire les annonces. Même si je fais encore les annonces, nous allons voir si je n'aurai pas même à réduire cette partie-là également. Mais cela signifie aussi, comme je l'ai mentionné tantôt, peut-être que nous allons pouvoir donner davantage d'études bibliques. Et comme nous entrons dans les mois d'hiver maintenant, il est possible qu'une telle chose se fasse. Alors, peut-être que nous allons faire ça tout simplement sur une base occasionnelle. Nous pourrons avoir ici au quartier général ce qu'on appelle un potluck, un repas ensemble, communautaire. Et peut-être qu'à cette occasion-là, nous aurons un homme ou plusieurs qui voudront bien diviser une heure et demie, une heure et quart. Et ce sera quelque chose que nous pourrions faire parvenir aux gens. Parce que les gens nous ont posé la question, ou nous ont tout simplement confirmé. Nous aimerions vraiment avoir davantage d'études bibliques de la part du quartier général. Et ça va nous faire plaisir de faire cette chose-là. Par le passé, tout ce que cela signifiait, c'était que j'avais à parler encore davantage. Et j'ai quand même un certain nombre limité d'heures pendant lesquelles je pouvais travailler. Alors, ça ne semblait pas possible à l'époque. Mais maintenant, ça le devient. Ça devient possible et nous allons voir comment les choses vont se développer. Alors, cela m'amène à mon prochain commentaire, qui lui-même va servir d'introduction à mon sermon. Alors, on retrouve dans la Bible certains livres plus courts ou certaines lettres plus courtes qui se prêtent très bien pour faire des sermons. Alors, on peut passer verset après verset dans les gros livres de la Bible. Et certainement, les petits livres se prêtent très bien à la création, si vous voulez, d'études bibliques, alors d'études officielles, si vous voulez, ou personnelles. Et je peux même, en quelque sorte, faire le commentaire suivant. Une des études bibliques les plus importantes que je fais moi-même, c'est de tout simplement lire la Bible. Simplement lire la Bible. J'étudie la Bible en abondance en étudiant ses thèmes. Et c'est également ce que je fais généralement lorsque je vais avoir à donner un sermon. Mais les périodes pendant lesquelles vous faites des études qui sont même très efficaces, hein, même sur des longs termes, c'est souvent tout simplement parce que vous êtes en train de lire la Bible. Alors, vous commencez au début d'un livre ou un chapitre, et tout ce que vous faites, c'est vous lisez. Donc, vous prenez un sujet, un chapitre, vous le lisez tout simplement du début vers la fin, sans avoir à sauter à un endroit et à l'autre pour aller chercher des idées sur un thème particulier, bien que ce soit une façon extraordinaire aussi de l'étudier. Mais ce n'est pas ainsi que je l'ai fait pour la plus grande partie de ma vie. Je lis normalement, hein, en allant chercher le contexte. Et la raison de cela, c'est que je suis en mesure, en faisant cela, de comprendre davantage d'un verset en particulier, ce qui n'est pas la même chose que si j'arrive d'un autre verset à un moment donné qui parlait à peu près du même sujet, comme nous le faisons dans une chaîne, hein, une référence en chaîne. Et cela, pour moi, est plus enrichissant quand ça me permet de soutirer davantage de substance et de compréhension des versets. Ça en fait quelque chose qui est plus vivant. Cela signifie également aussi que parfois, même un sermon peut provenir de la lecture d'un des livres, pas seulement des études bibliques. C'est un genre de choses que je fais périodiquement. Je ne suis pas capable de vous dire exactement la date lorsque je l'ai fait pour la dernière fois, mais je me souviens avoir fait un sermon sur Ruth, et je sais que j'ai fait également la même chose sur certains chapitres. À titre d'exemple, il y avait 1 Thessaloniciens 5, et je crois que j'ai également fait une série dans 1, 2, 3 Jean, et il y en a peut-être certains autres dont je ne me souviens pas pour l'instant. Alors, c'est donc une chose que j'ai faite de façon épisodique pendant mes 36 ans dans le ministère, et c'est aussi quelque chose que je vais faire à nouveau aujourd'hui. Alors, rendons-nous à ce livre, rendons-nous à Philippiens, et lisons au sujet d'une congrégation dont les problèmes avaient fait d'elle une congrégation que n'importe quel pasteur aimerait diriger. Alors, il ne s'agit pas d'un livre très long ici, et je crois que je pourrais le terminer en temps. Sinon, je le terminerai à une autre occasion. Alors, il s'agit d'une épître que nous appelons généralement une des épîtres en prison de Paul. Il était en prison à Rome lorsqu'il l'a écrite, et il l'a écrite sans doute au moment où il arrivait à la fin de son temps d'emprisonnement. Toutefois, on peut dire qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles cette épître a été écrite, et je crois qu'il serait utile de vous en donner quelques-unes. Paul, entre autres, voulait mentionner une de ses prochaines visites à Philippe. Il voulait également prévenir les gens contre les faux ministres. Et vous allez voir, il y a des points très intéressants sur lesquels nous allons jeter un coup d'œil aussi. Et il voulait également offrir des encouragements à chacun et aussi les remercier. Il voulait les remercier, entre autres, pour le soin dont ils avaient fait preuve à son égard. Je crois que c'est dans chapitre 4 et verset 10 où cela est mentionné. Donc, nous sommes capables de voir différentes raisons pour lesquelles il a écrit cette lettre-là, mais il n'y a pas de grande correction qui est donnée dans cette lettre. Parfois, un sermon est juste très gentil. Il est là pour offrir des informations générales et de l'encouragement à la congrégation. Et on voit ici qu'il s'agit d'un livre qui est extrêmement positif. Alors, le livre parle des aspects positifs du christianisme, qui en renferme d'ailleurs plusieurs. Et vous allez pouvoir constater également que Paul parle des aspects positifs d'une façon très positive également. Alors, vous allez pouvoir vous en faire une idée au fur et à mesure que nous allons lire. Alors, nous allons commencer, chapitre 1 et verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Alors, une salutation qui est assez longue, mais elle s'adresse à tout le monde qui se trouve à Philippe. Mais nous savons, vous et moi, que la grande majorité des personnes qui ont étudié et lu cette lettre-là ne se trouvaient pas à Philippe, que ce soit à l'époque ou même plus tard. Vous pouvez peut-être aussi inclure dans ces gens-là toutes les personnes qui sont demeurées à Philippe dans les décennies qui ont suivi le départ de Paul et qui ont sans aucun doute lu cette lettre-là aussi. On peut se poser la question, combien il y en avait? 1000? 10 000? 100 000? Chrétiens à travers les âges? On sait qu'en dernier ressort, il va en avoir au moins 144 000 qui l'auront lu. Alors, cette lettre-là est adressée à tous les saints à travers le temps. Mais bien entendu, Paul ne savait pas à cette époque-là que c'est ce qui pourrait se passer. Il ne savait pas que cette lettre-là qui est adressée aux gens de Philippe serait partie ou ferait partie des Écritures et serait canonisée. Alors que la grâce et la paix vous soient données. Arrêtons-nous ici un instant et regardons le fait que ce n'est pas seulement la façon de voir de Paul ici que la grâce leur soit donnée. Nous savons que la grâce signifie un pardon immérité, mais c'est également comme signification la faveur de Dieu, ses bénédictions. Et ça me rappelle que c'est un sermon auquel je pense ou que j'ai pensé donner depuis un an déjà, c'est sur le sujet de la grâce. On sait que la Bible nous dit de croître dans la connaissance et la grâce de Jésus-Christ. On peut se demander comment faisons-nous pour croître dans la grâce. On sait très bien que la majorité des gens savent comment croître dans la connaissance. Et la plupart des gens ne se posent pas de questions à ce sujet-là, bien que certains aient mal interprété 2 Pierre 3:18 dans le contexte de la fin des temps. Alors que c'est dit ici de croire dans la connaissance, la plupart de ces gens-là ont cru que cela signifiait de croire dans les doctrines, hein, c'est-à-dire de changer les doctrines. Mais souvent, ce qui n'est pas vraiment bien compris, c'est que la Bible nous dit également de croire dans la grâce. C'est ce que nous sommes supposés faire. Les anglophones disent les grâces, comme on dit. Nous, en français, on parle de cela comme étant du bénédicité. Donc, la grâce n'est pas un bénédicité que l'on prononce sur un repas. Un bénédicité, c'est une bénédiction courte que l'on prononce sur un repas. Point. Et la grâce est quelque chose qui est totalement différent. Chaque chrétien vit sous la grâce, mais la majorité ne sait pas ce que cela signifie. Alors ici, on voit que Paul dit que la grâce vous soit donnée. Alors, si c'était des saints, il leur rappelait que la grâce leur était donnée, et c'est plus qu'un pardon immérité ici. C'est une bénédiction, c'est des faveurs qui leur sont accordées, c'est de la protection et même de la guérison. Ici, c'est Dieu qui pourvoit pour eux. Alors, il s'agit également de miséricorde lorsqu'ils pêchent à nouveau. Et bien entendu, comme je l'ai dit, aussi un pardon immérité. Et la paix également, hein, vous soit donnée. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si je me rappelle bien, un des sermons relativement récents que j'ai donné était sur le sujet de la paix. Je ne veux donc pas m'étendre là-dessus davantage. Mais j'aimerais quand même dire que la paix de Dieu, qui est la seule véritable paix, était un point que Paul voulait que les Philippiens comprennent. Alors, ça restait quand même un souhait d'introduction. « Et je rends grâce à mon Dieu, verset 3, de tout le souvenir que je garde de vous. » Alors, les ministres de Dieu devraient prendre note de ce qui est écrit ici. Ce n'est pas seulement pour les apôtres, bien que moi-même je le lis et j'essaie de le prendre personnellement. Et je pourrais même ajouter, frères et sœurs, que non seulement les ministres, non seulement l'apôtre, mais chacun d'entre nous devrait rendre grâce à Dieu de tout le souvenir que nous avons les uns des autres. Alors, ça peut être à chaque fois, par exemple, que vous pensez à nos frères et nos sœurs du Nigeria. Il est possible que nous ayons encore un autre groupe à cet endroit qui vienne joindre nos rangs. Nous croissons à cet endroit-là. Alors posez-vous la question, à combien de reprises est-ce que vous vous souvenez de nos frères nigériens là-bas? Ou combien de fois est-ce que vous vous souvenez de nos Kenyans, hein, nos frères et sœurs kenyans du Kenya ou encore de l'Afrique du Sud ou de l'Australie ou de l'Angleterre ou même du Canada ou même des Mexicains? Alors je ne passerai pas partout, à tous les endroits, là, des douzaines de pays où nous avons des membres. Alors demandez-vous à quelle fréquence est-ce que vous remerciez Dieu pour toutes ces personnes-là? Alors, je crois que nous avons 16 sites de fête et nous savons que la majorité sont dans des pays différents. Nous en avons 3 par contre aux Philippines même et 2 aux États-Unis. Alors si on juge d'après les sites de fête, alors nous avons au moins 13 pays différents. Et ensuite, nous avons un grand nombre de membres de l'Église qui sont dispersés dans un beaucoup plus grand nombre de pays. Et c'est même plus que le double, hein, que du nombre de sites de fête. Je crois que c'est au-delà de 30 pays différents où nous avons des membres. Je vous demande, est-ce que vous remerciez Dieu à toutes les fois que vous vous souvenez d'eux? Et puis, vous pouvez même vous poser la question, est-ce que seulement vous vous en rappelez? Ou encore, posez-vous la question, est-ce que vous vous souvenez ou est-ce que vous vous rappelez que vous devez vous rappeler de tout le peuple de Dieu et à toutes les fois que vous le faites, vous devez le remercier. Et on poursuit, ne cessant, c'est-à-dire toujours, dans toutes mes prières pour vous tous. Alors il n'y a aucun doute que Paul a dû prier pour les Colossiens, les Galates, les Éphésiens, les Corinthiens, et sans doute prier beaucoup pour les Corinthiens, parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes, ainsi que pour les Thessaloniciens et toutes les autres congrégations pour lesquelles il travaillait. Donc, ce n'était pas une question de favoritisme ici qu'il disait ça aux Philippiens. « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, à la fois les Galates et toutes les autres congrégations qu'il avait fondées, les Romains aussi, il n'avait qu'à penser à toutes les congrégations auxquelles il a écrit. Et cela sans compter les grandes et le grand nombre et les nombreuses autres congrégations auxquelles Paul fait référence dans les Actes. Et il priait avec joie pour eux au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Quand on lit ça, ça a l'air vraiment à des prières qui sont incessantes. Alors, il dit ici « depuis le premier jour jusqu'à maintenant ». Verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu a commencé une bonne œuvre en chacun d'entre vous si vous avez son Saint-Esprit en vous. Et si vous n'avez pas encore son Saint-Esprit, alors il n'est pas encore en train de travailler en vous. Et si vous êtes en train d'être conseillé pour le baptême, cela signifie qu'un jour il va travailler en vous. Mais rappelez-vous qu'il est écrit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas. Et souvenez-vous qu'il est écrit aussi, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce sont les gens avec lesquels Dieu travaille. Paul nous disait ici qu'il était persuadé que Dieu faisait sa part, parce que les gens, nous le savons, ne font pas toujours leur part. Les gens peuvent apostasier et s'éloigner. Ils ont le libre arbitre et rien ne les empêche de cesser. Il est juste que je pense ainsi, verset 7, de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Alors la fête est un temps merveilleux pendant l'année. C'est une chose à laquelle je réfléchissais pendant que je repassais mes notes pour le sermon. Et je pensais aux gens qui ont l'occasion de se rencontrer en plus grand nombre à différents endroits comme ça à travers le monde. Il est vrai que nous avons plusieurs nouveaux sites de fête cette année, mais il y en a aussi des anciens auxquels les gens se rendent une fois pour se rencontrer, sans compter qu'ils vont rencontrer de nouvelles personnes en plus. Et on peut dire que de plus en plus, au fur et à mesure que le temps passe, alors nous en sommes rendus à notre 9e fête maintenant dans l'Église de Dieu restaurée, il y a de plus en plus de gens qui porte de plus en plus de gens dans leur cœur. Alors, lorsqu'on lit ça ici, on voit que c'est une façon merveilleuse pour Paul d'exprimer sa tendresse et sa douceur envers les Philippiens. Et si vous vous rappelez ce qu'il avait écrit aux Thessaloniciens, il disait « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. » De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Paul a écrit beaucoup de choses, dont certaines étaient difficiles à comprendre, comme Pierre l'avait mentionné. C'est un homme qui était très instruit, mais jamais il s'est pris pour quelqu'un d'autre et s'est jamais cru supérieur aux autres. Il parlait constamment du fond du cœur. Si nous continuons à lire, vous allez voir un autre endroit où il dit « Je vous porte dans mon cœur ». Combien y en a-t-il dans l'Église de Dieu aujourd'hui qui serait capable de parler de cette façon-là? Il y en a peut-être qui diraient « Ça fait un petit peu fleur bleue, hein? Ça sonne un peu comme les protestants, ça sonne faux ». Non, ce n'est pas le cas ici. Bien sûr, vous pourriez le dire, et ça pourrait sonner comme ça. Il l'aide même. Il poursuit en disant « Soit dans mes liens ». Alors, sans doute, lorsqu'il écrivait ça, Paul avait une chaîne et une boule attachées à sa cheville. Et vous savez, il y avait deux types. Hein? Vous en aviez un qui était alentour d'une seule jambe. Alors, c'était quelque chose que vous traîniez continuellement. Vous n'étiez pas capable de vous sauver. Alors, vous savez qu'on pouvait mettre un homme aux arrêts, il demeurait quand même chez lui. Ce qui est arrivé à Paul pour la deuxième fois, il fut arrêté et il demeurait dans sa propre maison. Alors, si vous pensez que les fers autour des jambes des gens sont quelque chose de nouveau, ou des genres d'attaches électroniques aujourd'hui dont on se sert pour surveiller à partir des satellites, c'est sûr que Paul n'était pas surveillé par des satellites, mais il avait ce genre de bracelet-là autour des pieds. Et il pouvait toujours se déplacer à l'intérieur de chez lui. Et il y a même des chances que cette boule et ces chaînes-là puissent avoir été entre ses deux jambes. Alors, c'est une pratique qui avait été créée il y a des milliers d'années déjà. Donc, Paul ne pouvait pas se déplacer très, très loin. Il pouvait sortir dehors, dans sa cour, aussi longtemps qu'il portait ce poids-là. Alors, je le répète, il y avait deux façons. Ça pouvait être, encore une fois, des chaînes à chacune des jambes avec une boule entre les deux. Ce qui aurait été en fait un petit peu plus aisé pour lui, mais souvent, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il attachait la boule de métal à une seule jambe. Et lorsque votre temps de mise en arrêt à la maison était terminé, alors vous aviez le forgeron qui venait chez vous, il coupait la chaîne, et c'était fait, c'était fini. Alors, il n'y avait pas grand-chose que vous puissiez faire avec cette boule et cette chaîne-là. Vous ne pouviez pas vous sauver. Il semblerait que Paul était dans ce genre de restriction-là, si vous voulez. Il est possible qu'il ait été aussi dans une prison, mais quel que soit le cas, il dit « soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile ». Alors, on va revoir ça encore une fois un petit peu plus loin. Et c'est dit dans un contexte différent qui nous permet de comprendre quelque chose d'additionnel. Nous allons d'abord lire celui-ci, hein, et dans ce premier contexte-ci, et le texte entre les deux. « Vous tous qui participez à la même grâce que moi ». Alors, on peut voir ici que Paul, même en prison ou encore en arrêt à la maison chez lui avec une chaîne et une boule de fer, nous dit ici qu'il va défendre l'Évangile. Alors, prenez note de ça au fur et à mesure que nous lisons. « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » La version King James utilise le mot « entrailles » au lieu de « tendresse ». Alors, nous savons que l'Église est le corps de Christ et que c'est aussi le temple de Dieu. Hein? Nous comprenons tout cela. Et c'est intéressant de voir que Paul utilise le mot des entrailles de Jésus-Christ, la partie du corps de Christ dans laquelle lui se situe pour chérir tous les autres. Ce sont les entrailles du corps. Et comme tout corps qui a une tête, des orteils, des mains, des pieds, un cœur, des poumons, une vessie, des os, ou des tissus conjonctifs, des tendons, des ligaments, des cartilages entre les os, etc. Tous les corps possèdent des entrailles. Et les entrailles sont l'endroit où vos sentiments les plus profonds se rejoignent. Si jamais vous avez peur, vos reins se laissent aller. On se souvient que David disait à Dieu, « Sonde mes reins ». Ça, c'est lorsque parfois vous avez peur, vous êtes sous une grande épreuve, vous êtes obligé de courir aux toilettes pour vider votre vessie. On sait que la Bible est directe. Vous savez que moi, je suis direct aussi. Alors, je n'ai pas donc à m'excuser pour ce que dit Paul ici. L'endroit où sont ressenties le plus profondément les émotions. Lorsque parfois vous ressentez une peur soudaine, vous réalisez tout à coup que vous devez courir et aller aux toilettes, parce que ce genre d'émotions-là ont un effet sur les entrailles. Et c'est de ça exactement que Paul parle ici. Il le dit, « Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». Et le mot grec « splagnon » signifie bien les entrailles. Paul savait très bien ce qui traverse les entrailles, et il aurait su aussi si c'était une façon inappropriée de s'exprimer. Tu les chéris avec les entrailles? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Les entrailles avant ou après l'évacuation? Alors j'essaie d'être très, très direct ici, là, frères et sœurs, parce que Paul connaissait exactement ce qu'était le corps humain et l'effet que des émotions très fortes pouvaient avoir sur lui. Mais il ne s'inquiétait pas non plus de dire « Je vous porte dans mon cœur ». Mais il n'a pas dit « Je vous porte dans mes entrailles ». Alors ça aurait été un problème différent. Ou « Je vous chéris tous avec le cœur de Jésus-Christ ». Ça n'aurait pas signifié la même chose. Mais je tenais tout simplement à souligner le fait que ces deux parties du corps-là étaient mentionnées. Et si je dis cela, c'est parce que vous aussi, vous devriez sentir ce genre d'émotion-là aussi profondément. Lorsque vous et moi, nous nous rappelons des gens, en priant pour eux, et cela à chaque fois que nous nous souvenons d'eux autres, à chaque fois qu'ils nous reviennent en mémoire. Alors, on n'a pas encore rencontré de correction sévère ici, hein? On est juste au début du chapitre 1. Par contre, nous sommes capables de distinguer une espèce de ton encourageant hein, que nous pouvons découvrir depuis le début de notre lecture. Et le verset 9 maintenant, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » L'anglais emploie le mot « jugement », c'est-à-dire avec bon sens. Alors, rappelez-vous encore une fois, comme Dieu l'a déjà mentionné, et je devrais peut-être encore une fois le rappeler plus souvent, nous sommes les choses folles du monde, les choses faibles que Dieu a choisies, les choses viles ou méprisées du monde que, comme Paul dit, des choses qui ne sont pas. Alors, il disait ça lorsqu'il parlait aux Corinthiens. Et ces derniers étant en quelque sorte une représentation de nous tous. Nous n'avons pas ce bon sens-là. Donc, le sens commun n'est pas tellement commun dans le monde, et je suppose qu'il l'est encore moins parmi le peuple de Dieu, s'ils ne se servent pas de l'Esprit de Dieu. Alors, je lisais justement ce matin Proverbe 2:6, hein, où c'est écrit « Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Si vous voulez avoir le gros bon sens, hein, avoir un bon jugement, une bonne sagesse, et nous pouvons voir que la prière de Paul, c'est qu'il puisse abonder dans une telle chose. Pas juste en avoir un petit peu, mais plutôt qu'ils augmentent de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire, hein, quand on dit « un petit peu de connaissance est dangereux », si vous n'avez pas un bon jugement, si vous n'avez pas suffisamment de sagesse pour aller avec cette connaissance-là. Juste un petit peu de connaissance a souvent l'effet chez les gens de leur faire penser qu'ils connaissent tout. Mais d'une façon ironique, si vous voulez, plus vous en savez, plus vous étudiez, plus vous réalisez la montagne de connaissances hein, que l'homme possède, qui double maintenant, je ne me souviens pas, à toutes les années ou à tous les 6 mois. À tous les 6 mois, l'homme en sait encore davantage le double de ce qu'il a appris pendant les milliers d'années qui ont précédé. Mais où je veux en venir, c'est qu'au fur et à mesure que vous en apprenez plus, vous réalisez que vous en connaissez moins. Et il est normal qu'il en soit ainsi. On sait tous qu'à l'âge de 16 ans, on connaît tout. Et ma mère s'est organisée pour que j'oublie pas ça. « Ah, David, tu as 16 ans. Tu sais donc tout maintenant. Tu en connais plus que ta mère, plus que ton père. » Et c'est le genre de choses qu'elle me disait. Bien entendu, je ne savais pas, moi, que j'avais cette attitude-là. Et elle essayait de me le faire réaliser. Alors, c'était une femme qui était très cultivée. C'était le genre de femme qui a littéralement lu des milliers de livres, sans compter qu'elle était la fille d'une autre femme qui a lu, en fait, vraiment lu des milliers de livres. Je pense que je vous l'ai déjà dit, ça, mais ma grand-mère, Crawl, lisait 10 livres chaque semaine. Et cela seulement pendant les 10 dernières années de sa vie. Alors 10 ans, vous n'avez qu'à faire le calcul. Elle a lu donc bien au-delà de 5000 livres. Elle a fait ça pendant les 10 dernières années de sa vie, car elle était en chaise roulante. Elle ne pouvait pas se rendre à la bibliothèque et elle envoyait quelqu'un chercher les livres qui allaient là-bas et prenait tout simplement 10 livres sur la tablette et les rapportait. Et elle les lisait. Et elle enseignait à sa fille à faire la même chose. Et notre mère a quelque sorte fait claquer le fouet au-dessus de nos têtes, hein, au-dessus de ses 3 enfants. Nous avons dû lire énormément. Mais plus je lisais et que je lisais et que je lisais, plus je réalisais que je ne connais pas grand-chose. Et aujourd'hui, à mon âge, je m'aperçois que je connais très peu de choses si on considère la masse immense de connaissances qui existent. Et toute cette masse de connaissances-là croît d'une façon beaucoup plus rapide que mon propre fond à moi de connaissances. On sait qu'un chrétien doit croître dans la connaissance de Jésus-Christ, mais il doit aussi croître dans la connaissance générale. Alors, si vous n'essayez pas d'augmenter votre fond de connaissances, hein, alors ce n'est pas correct. Mais par la même occasion, assurez-vous également d'augmenter le gros bon sens, hein, d'avoir du bon jugement. Et nous devrions tous prier les uns pour les autres, comme pour nous-mêmes, que nous puissions croître dans ce bon jugement-là. Et le verset 10, c'est « Pour le discernement, vous les essayez, des choses les meilleures. » Alors, rappelez-vous, vous, là, le peuple de Dieu, qu'il y a des choses bonnes et des choses mauvaises dans le monde. Et vous devez avoir du discernement. Jean nous disait, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Et les gens ne mettent pas à l'épreuve des différentes attitudes, les humeurs, les idées et les doctrines qui flottent un peu partout dans le monde, alentour et dans les autres groupes. Ils ne les mettent pas à l'épreuve. Ils ne prennent pas le temps de juger les choses qu'on leur présente. Pensez comme un juge dans un tribunal penserait. Si quelqu'un essaye de vous vendre une idée, assurez-vous que vous allez la faire passer devant le tribunal, en jugement. Quels sont les faits, quelles sont les preuves que les gens ont, vous apportent? Selon quelle logique est-ce qu'ils pensent? Est-ce que ça a du bon sens? Hein? Est-ce que ça repose sur un fondement de vérité? Donc, éprouvez ces choses-là. Paul avait bien mentionné aux Hébreux de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On parle de Hébreux 5, au verset 13 et 14. Mais ce n'est pas ce qu'ils avaient fait. Ils en étaient rendus au lait, alors qu'ils auraient dû manger de la viande. On poursuit au verset 10, « Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » En d'autres mots, si vous n'avez pas suffisamment de connaissances, si vous n'avez pas de gros bon sens, et si vous ne faites pas, en quelque sorte, passer en procès les différentes façons de penser, les doctrines, les idées qui vous sont soumises, si vous ne les éprouvez pas, alors c'est une grosse erreur que vous faites. Alors, il y a un point intéressant qui me revient à l'esprit. Je pense que c'était une histoire qui était à la une, mercredi ou jeudi. Et cet article-là parlait que maintenant, les États-Unis vont se diriger plutôt vers un président de type avocat plutôt que d'un type président de compagnie. Alors, lors de la prochaine élection, nous devrions avoir des avocats, hein, des avocats puissants et qui ont eu beaucoup de succès. Plusieurs se sont présentés. Alors, on peut dire que la majorité des gens ne sont pas très satisfaits du leadership de M. Bush. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement s'organiser pour aller prendre quelqu'un qui est encore plus faible que lui. Ils vont choisir un avocat. C'est assez intéressant à voir. Hein? Vous avez Thompson qui est un avocat. Vous avez Giuliani qui est un avocat. Vous avez aussi Nick Romney qui est un avocat qui a eu beaucoup de succès. Il en est de même de John Edwards, etc. Et même en 1988, Hillary Clinton était considérée comme étant une des 100 avocates les plus éminentes aux États-Unis. Alors, c'était peut-être même en 89, là, avant que son mari devienne président. Et si je ne me trompe pas, en 1991 encore, elle a eu le même genre de nomination. Alors, c'est une femme, mais elle est tout un avocat. Et je crois également que Barack Obama est aussi un avocat. Alors, il est possible qu'il y en ait un ou deux qui ne le soient pas, mais je dirais que ceux qui sont en avant dans la course le sont tous. Alors que le président Bush était un homme quand même assez intelligent. Il avait eu un MBA de Harvard. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il est intelligent. Mais ce n'est pas un avocat. Et puis, je repense à ce que c'est que Mitt Romney disait. Une des choses qu'il aimait faire, c'était qu'à chaque fois qu'une idée lui était apportée, il considérait le contraire de cette idée-là. C'est un point assez intéressant ici. Et peut-être justement, lui a-t-il un peu plus la mentalité administrative qu'il le réalise. Ou peut-être est-ce qu'il sait et veut se présenter sous un aspect différent, mais il a quand même présenté un point intéressant. Alors, il dit aux gens qui sont avec lui, ramassez tous les faits que vous pouvez trouver à ce sujet-ci, parce que nous allons nous asseoir et creuser le sujet, et le but que nous avons, c'est d'aller au combat. Et si nous n'allons pas au combat, ou en d'autres mots, si nous ne mettons pas à l'épreuve toutes ces choses-là, alors nous ne faisons pas justice à la décision que nous devons prendre en regard de ceci, et nous pouvons faire une erreur. Alors, c'est un concept très intéressant ici. Et en passant, il est fort possible qu'il soit notre prochain président. Je dois dire, c'est un homme qui est quand même relativement intéressant sous plusieurs aspects. Alors, il ne s'agit pas là d'une mauvaise approche vis-à-vis la vie. Alors, ces gens-là le font sans avoir l'Esprit de Dieu, et nous devrions le faire avec l'Esprit de Dieu. Vous êtes en mesure de comprendre la différence. On poursuit au verset 11. Rempli du fruit de justice. Alors, on ne parle pas ici d'en avoir juste un peu. On parle de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur, de la tempérance. Donc, pas juste un peu, mais en être rempli de ces choses-là. Rempli des fruits de justice. Est-ce que vous diriez que c'est le but que vous visez? Et on peut même aller plus loin en dire, est-ce que c'est vraiment ce que vous faites, que vous êtes rempli? Alors, j'ai souvent dit, et je vais le répéter aujourd'hui, malgré que je ne sais pas si je l'ai dit si souvent ça publiquement, je prie pour avoir la sagesse de Salomon. Je ne crois pas avoir la sagesse de Salomon, mais je prie pour l'avoir. Et il n'y a d'aucune façon, hein, aucune façon que je pourrais approcher cette sagesse-là si je ne la demande pas. Je prie également, hein, et je demande d'avoir la patience de Job. Je demande aussi à avoir l'amour de Jean. Et je ne crois pas, hein, avoir l'amour de Jean ni la patience de Job. Je peux dire que généralement, je ne suis pas une personne patiente. J'ai trop de choses à faire. Et si j'étais trop patient, je ne réussirais pas à les faire. Je n'arrête pas d'avoir présent à l'esprit l'idée que c'est une œuvre courte qui va encore être raccourcie. Et dans un sens, je suis heureux de ne pas être patient. Je veux être plus impatient avec moi que je ne serais avec les autres. Mais en même temps aussi, on devrait avoir pour but, hein, d'avoir la foi d'Abraham. Donc, je prie et je demande pour avoir la foi d'Abraham, lui qu'on appelle le père des fidèles. Et je ne crois pas non plus avoir la foi d'Abraham. Mais visez haut. Je pense que je vous ai déjà dit que j'ai prié plus que n'importe quoi pour avoir l'intelligence, la compréhension des choses, plus que toute autre chose, que pour toute autre chose dans ma vie. Et j'ai commencé à prier pour cela dès le début, alors que j'avais 17 ans. J'ai commencé à prier pour cette compréhension-là lorsque Dieu m'a appelé. Et cela à partir d'une phrase qu'a dite M. Armstrong. Il avait dit lui-même qu'il avait commencé à prier pour la compréhension au moment où Dieu l'avait appelé. Et bien entendu, si vous demandez à Dieu de vous donner davantage de son esprit et de la puissance de son esprit pour que les fruits de l'esprit soient présents. Alors on peut voir dans Jean 15 à 4 reprises qu'il est dit que Dieu est monde, Christ est monde. Il le fait chez chacun de nous afin que nous puissions porter davantage de fruits. Il émonde chacune des branches, chacun des sarments, c'est-à-dire nous, qui vivons par Jésus-Christ. Il n'est pas question pour nous de nous approcher, de mettre notre propre amour, notre propre joie, notre propre maîtrise de soi sur la table. Ça ne fonctionnera pas. Les véritables de fruits, hein, de Dieu sont là parce que Christ vous émonde, nous émonde. Et c'est son esprit en nous qui crée ces qualités-là. Et tout ça à la louange et à la gloire de Dieu. Verset 12. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Alors, on a le même apôtre Paul ici qui a dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. » Alors, il n'a pas dit ici que toutes choses sont bonnes. Il dit qu'elles concourent au bien. Et cela ne s'applique pas à tout le monde. Si vous vous rappelez, c'est bien écrit pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. En d'autres mots, Paul voyait son emprisonnement comme ayant des avantages. Il prenait toujours le côté positif des choses. Et vous n'en douterez plus lorsque nous aurons terminé ce sermon-là sur Philippiens. Autrement dit, son état faisait montre de plus de positif que de négatif, plus de bonnes choses que de mauvaises. Et toutes ces choses, comme il le dit, ont contribué au progrès de l'Évangile. En d'autres termes, même l'œuvre de Dieu prenait de l'expansion malgré que Paul soit en prison. Certains pourraient dire, mais ça, c'est la fin de l'œuvre. Qu'est-ce qu'il en serait si moi, il fallait que j'aille en prison? Est-ce que vous diriez, bon, l'œuvre est complètement terminée maintenant? Ou est-ce que vous diriez, je me souviens ce que Paul dit dans Philippiens 1, 12. Vous savez, il est possible que j'aille en prison. Et il est possible que d'autres ministres aussi aillent en prison. M. Armstrong était prêt à aller en prison, bien qu'il n'y ait jamais été. À une certaine période, les choses n'étaient pas roses. Il faisait face à une bataille légale énorme. C'est quelque chose qui s'était déroulé en 1979, 1980 et début 1981. Je me rappelle encore comment est-ce qu'il criait pratiquement au téléphone en me disant « Je suis prêt à aller en prison, même à l'âge de 86 ans. » Mais ce n'est pas quelque chose qui est arrivé. Ça a été le cas de Jérémie. Ça a aussi été le cas de Joseph. Ensuite, comme nous le voyons, Paul y était à deux reprises. On sait que Christ y a été pendant une nuit. Ensuite, vous avez Jean-Baptiste qui a été en prison. Et il est possible qu'il y en ait d'autres. Et on poursuit. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Si vous jetez un coup d'œil dans les explications de la marge, il parle ici de la cour de César. César était au courant au sujet de Paul, et il semblerait qu'il y avait des gens de l'Église qui travaillaient à la cour de César, à Rome. Alors, nous avions des gens dans l'Église dans les années 60 qui travaillaient à la Maison-Blanche lors de la présidence de John F. Kennedy. Et nous avions entendu des choses qui étaient très intéressantes à cette époque. Mais encore une fois, nous n'avons pas tout su parce que c'était encore le temps où les gens étaient capables de garder des confidences. C'est pas comme on en voit aujourd'hui, où est-ce qu'ils laissent la Maison-Blanche et se dépêchent d'aller écrire un livre avec les informations privilégiées dont ils sont les dépositaires. Ce genre de comportement est tout à fait contraire à l'éthique. Alors, dans ces années-là, il y avait certaines choses qui étaient dites au ministère, entre autres. Et puis, nous avions des gens aussi qui travaillaient pour certains gouverneurs et d'autres qui ont été appelés et qui avaient des postes élevés. Et cela faisait en sorte que nous entendions des choses très intéressantes. Cela signifie aussi que nous savions que le Plain Truth se rendait à la maison de John F. Kennedy, ainsi qu'à celle de Lyndon B. Johnson. Elle se rendait aussi à la maison de Maison-Blanche dans le temps de Nixon et également dans le temps de Reagan. Et je serais bien intéressé de savoir si le président lit le Real Truth présentement. Je sais très bien réellement qu'il y a plusieurs chefs d'État qui lisent le magazine The Real Truth présentement. Mais nous allons voir avec le temps comment les événements vont pouvoir contribuer au progrès de l'Évangile. Que ce soit dans la Maison-Blanche ou que ce soit encore à 10 Downing Street ou d'autres endroits semblables. J'ai déjà une bonne idée comment ce genre de choses-là pourrait se produire un jour. Verset 14, et la plupart des frères dans le Seigneur encouragés par mes liens. Alors, les membres de l'Église ne voyaient pas Paul là tout recroquevillé sur lui-même, en position fénale, en train de pleurer et dire « Malheur à moi, je ne suis plus capable de rien faire. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour être mis en prison? » En fait, ils ont vu Paul qui adoptait une attitude extrêmement positive. Alors, on n'avait qu'à imaginer les autres personnes qui n'étaient pas en prison et qui, voyant cela, disant « J'aurais honte de me plaindre. » Et comme conséquence, ils ont acquis davantage d'assurance. Mais c'est dans ce sens-là qu'ils ont été encouragés par les liens de Paul. Ils ne se disaient pas, « Oh, quelle inspiration de voir Paul dans les liens! » C'est pas ça que ça veut dire. Ils sont devenus avec de plus en plus d'assurance pour prêcher la parole, parce qu'ils se disaient, les choses ne peuvent plus empirer. Puis regardez comment est-ce que Paul prend ça du bon côté, comment il est positif. Sans compter qu'il semblait avoir des preuves qu'il était à la veille d'être relâché. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Alors c'est un peu comme de nos jours. Il y avait déjà des faux prédicateurs qui se montraient la tête, et Paul avertissait les membres ici. Au verset 17, il est dit que certains étaient animés d'un esprit de dispute et qui annonçaient Christ pour des motifs qui n'étaient pas purs et avec la pensée de susciter quelques tribulations aux liens de Paul. En d'autres mots, ils sortaient et ils prêchaient partout que Dieu les bénisse. Regardez, Paul est en prison. Et c'est la façon dont il ajoutait des difficultés à l'état dans lequel Paul se trouvait. Mais par contre, au verset 16, Paul disait, « Ceux-ci, les autres, agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. » Ça ne faisait pas de différence s'il en prêchait l'Évangile à partir d'une synagogue à Athènes ou à Rome, ou encore à partir de sa prison même. Même de sa prison, il pouvait enseigner, faire des sermons à des visiteurs qui venaient le voir. Il ne faut pas oublier que Paul était un citoyen romain, et les gens pouvaient venir le voir, le rencontrer, alors qu'il était sous arrêt dans sa propre maison. C'est d'ailleurs ce qu'on peut lire dans les deux derniers versets des Actes, qui décrivent les deux dernières années de la vie de Paul. Qu'importe. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça, que nous ayons des gens qui enseignent Christ par esprit de dispute ou encore avec des motifs qui ne sont pas purs? De toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Alors, on peut s'arrêter une minute ici et faire quelques commentaires. Ça pourrait être utile. Il y en a dans les autres groupes qui annoncent Christ et qui le font par esprit de dispute, mais pas avec des motifs purs. Et ils le font avec la pensée de nous susciter quelques tribulations. Ils le font pour l'apparence, mais malgré cela, à un certain moment donné, cela quand même amène certaines personnes vers la vérité. Il y a des gens qui sont appelés à la vérité, ou du moins à la partie de la vérité que détient tel groupe ou tel autre groupe, et qui sont ensuite appelés à sortir de ces groupes-là après qu'ils aient oint leurs yeux. Et ensuite, ils viennent vers nous, après avoir appris des choses en rapport avec Christ. Et bien entendu, ça dépend toujours jusqu'à quel point le véritable Christ est enseigné dans ce groupe où ils étaient. Parce que nous nous rappelons qu'il y a aussi un Jésus différent, avec un autre évangile et un autre esprit qui est prêché à l'extérieur. Mais ils apprennent ou ils entendent néanmoins parler de Christ, même si cela a été fait pour l'apparence et sans intention pure ou pas sincèrement. Et ensuite, ils apprennent la vérité avec nous, ici. C'est ici qu'ils participent à l'œuvre de Dieu et qu'ils se soumettent au gouvernement de Dieu. Et Paul poursuit au verset 18, « Et je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Alors, je vous pose la question, est-ce que vous êtes mal à l'aise de reconnaître que certains des autres groupes enseignent une partie de la vérité? Je ne suis pas mal à l'aise avec ça. En fait, j'aimerais même que chacun d'entre eux se réveille, que tous se réveillent totalement. Malheureusement, je sais très bien qu'il n'y a qu'une partie qui va se réveiller avant que la grande détresse arrive. Et après qu'elle sera commencée, il n'y en aura que la moitié. Vous savez comment ça va se dérouler. Il y en a la moitié qui vont se convertir et vous connaissez leur sort, tandis que l'autre moitié, tout simplement, apostasie totalement. C'est ce qui fait la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Mais comme je l'ai dit, je suis quand même heureux de savoir qu'ils font quand même une œuvre quelconque, en partie. Je sais très bien que Dieu ne dirige pas et ne guide pas le travail qu'ils font. Christ n'est pas divisé. Il n'a qu'une seule Église. Il a bâti une seule Église et il n'existe qu'un seul gouvernement de Dieu sur la terre. Et s'il n'est pas ici, alors il est à quelque part ailleurs. Je parle ici pour parler, comme on dit. Le gouvernement doit être ici, car c'est le seul endroit où la vérité entière est enseignée. Donc, je n'ai aucun problème avec l'œuvre des autres, et je mets l'œuvre entre guillemets, puisqu'il s'agit d'œuvres d'hommes. Il y a quand même certaines bonnes choses qui surviennent à ces endroits-là. On sait que c'est un mélange de bonnes et de mauvaises connaissances. Et il y a des bonnes choses lorsqu'il y a un bon enseignement. Il faut le reconnaître. Nous avons de nombreuses personnes dans l'Église de Dieu restaurée qui sont venues à la vérité par un contact avec un des autres groupes. Ce n'est qu'après qu'ils sont entrés en contact avec la vérité entière, ici. Certains sont dans les différents splinters. Ils vont moindre leurs yeux et en sortir. Par contre, il y en a d'autres qui vont sortir des splinters et qui n'ont pas besoin d'oindre leurs yeux. En réalité, ils cherchaient, ils s'approchaient de la vérité. Ces personnes-là ne s'avançaient pas vers une position de cécité, hein, d'aveuglement spirituel. Un laodicéen, c'est quelqu'un qui était capable de voir auparavant et qui est devenu aveugle. Alors, c'est un point auquel il faut réfléchir. Quelqu'un qui vient d'un autre groupe y est peut-être resté longtemps. Il a peut-être appris la vérité, peut y avoir développé un certain aveuglement au sujet de certaines choses particulières. Mais en gros, s'il était en train de sortir des ténèbres du monde, vous ne le décririez pas comme se dirigeant vers l'aveuglement. Vous diriez qu'il s'approchait de la lumière, mais il s'en approchait en entendant une partie des enseignements au sujet du Christ et de ses doctrines dans un autre groupe. Ici, à ce moment-là, ils voulaient vraiment poursuivre leur recherche de lumière, alors ils devaient traverser ces splinters-là et venir chez nous. Alors, j'ai donc pas de problème réellement si d'autres personnes veulent vraiment enseigner Christ pour l'apparence et sans sincérité, en essayant de causer du trouble non seulement à nous, mais à n'importe quel autre groupe. Ça, c'est leur affaire. Si cela entraîne plus de personnes à venir en contact avec la vérité, alors que nous ne sommes pas encore une œuvre immense et puissante, par contre, nous sommes une œuvre très, très grosse. Et nous sommes une œuvre très puissante. Alors, je ne sais pas si je peux nous qualifier d'immense. Il y en a qui font référence à nous en nous qualifiant de présence Internet éléphantesque. Nous sommes, en tout cas, la plus grosse entreprise de publication religieuse dans le monde d'aujourd'hui. Sans doute sommes-nous immenses dans ce sens, mais je ne crois pas que nous le soyons en comparaison de ce que nous allons devenir. Alors, je dois donc relativiser. Il y a un nouveau mot qui a été créé dans le monde de l'Internet. C'est « giganome ». C'est en quelque sorte une contraction entre « gigantesque » et « énorme ». Autrement dit, je suppose que si quelque chose était plus gros que « gigantesque » et plus gros que « énorme », alors ça devient « giganome ». Ça me fait plaisir de dire pour la première fois dans un sermon qu'un jour nous serons peut-être giganomes. Peut-être le mot réel est peut-être gigantome, je ne sais pas. Mais tout cela pour dire que je ne crois pas que nous soyons immenses encore dans le sens véritable du mot. On poursuit, verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Il se reposait totalement sur tout ce que Dieu faisait dans sa vie. Rien n'avait de la signification, sauf ce que l'Esprit de Dieu accomplissait. » Rappelez-vous que Christ disait « Je ne puis rien faire par moi-même. » Et j'essaie souvent de me rappeler à l'Esprit, Jean 5, 30, frères et sœurs. Alors, si Christ a dit une telle chose, si Dieu, dans la chair, disait « Je ne puis rien faire par moi-même », combien moins chacun de nous? Si la chair a quelque chose de spécial, alors la chair de Christ aurait été celle qui avait quelque chose de vraiment spécial. Et il s'est regardé lui-même et il a dit, « Je ne peux rien faire par moi-même. C'est le Père en moi qui fait les œuvres. » Et on passe au verset 20, « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. » Mais que, maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Autrement dit, que César mette le pouce vers le bas ou vers le haut. Je dis ça si vous comprenez le geste. Vous vous rappelez que c'était souvent le geste que César pouvait faire dans les combats entre gladiateurs ou même au tribunal. Il était en quelque sorte le dernier recours des gens. La cour suprême ultime de Rome, c'était César, et c'est lui qui décidait de mettre le pouce vert en haut ou le pouce vert en bas. À différentes époques, c'était vraiment ainsi que le jugement était rendu. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Vous vous rappelez que j'ai mentionné quand même mon épouse. Comprenez bien ce verset-là. Et ce n'est pas la façon dont la majorité des gens envisageaient la vie d'ailleurs. Vivre est un gain. Mourir, c'est Christ. Et ce n'est pas parce que nous croyons que lorsque nous mourrons, nous allons au ciel, mais parce que nous allons être près de Christ. Dans un autre endroit, dans 2 Corinthiens 5, Paul dit qu'il voudrait partir et être avec le Seigneur, et pas parce qu'il serait au ciel après sa mort. Et c'est le même Paul qui parle de la résurrection au même Corinthien dont je vous parle ici, dans la première épître qui leur était destinée, alors qu'il parle de la septième trompette, de la résurrection et de ceux qui seraient changés. En fait, ce que Paul disait, c'était en quelque sorte que de mourir était un peu comme être avec Christ. Mais ici, il le dit d'une façon un peu différente, hein? Il renverse les choses. Parce qu'il dit « car Christ est ma vie ». Autrement dit, il continuerait à faire l'œuvre de Dieu tant qu'il serait vivant. Comme mon fils l'a dit dans sa sermonnette au sujet de sa mère qui est morte, et comme toute autre personne qui meurt, une fois que c'est fini, c'est fini. Une fois que vous êtes mort, comme le dit dans l'Ecclésiaste chapitre 10, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Et nous allons tous à cet endroit, car il est réservé à tout homme de mourir une fois. Par contre, les chrétiens savent très bien que si vous êtes scellés en Jésus-Christ, mourir est un gain et non une perte. C'est peut-être une perte en termes de vie humaine, mais c'est un gain au point de vue de l'éternité. Vivre, c'est poursuivre l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Donc, d'un point de vue purement humain, si vous me permettez de le répéter, Paul a dit il avait le désir ardent de partir et de se retrouver avec le Seigneur. Il ne faut pas oublier que Paul a eu une vie qui était très difficile. Il a été battu, il est passé près de la mort nombre de fois. Il est possible qu'il ait eu à combattre l'arthrite dégénérative et peut-être même d'autres types, hein, l'arthrite traumatique à cause de toutes les fois qu'il avait été frappé. C'est d'ailleurs un point que j'ai mentionné dans d'autres sermons. Alors, il lui serait donc assez facile de dire « j'ai vécu une vie assez longue et j'aimerais bien en avoir la récompense. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. En d'autres mots, le choix va être fait pour moi, que je vive ou que je meure. » Il avait un peu sa petite idée là-dessus et il se sentait dans un certain sens un petit peu coincé. « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » Alors, il le répète ici. « Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. » Voilà la raison pour laquelle cela m'est un gain. Mais encore, vivre, c'est Christ. Ensuite, au verset 24, « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Autrement dit, « C'est mieux que je sois ici. » Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite à partir de maintenant parce que je veux parler de quelques points supplémentaires, d'autres choses. De toute façon, j'ai couvert une partie de ceci dans un sermon assez récent, alors je ne veux pas perdre trop de temps à ce sujet. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Alors, c'est une expression que j'avais l'habitude de dire à ma sœur. Hein? Toute ta conduite n'est pas digne d'une dame. Ou encore, elle-même disait à ses fils, par exemple, ce n'est pas digne d'un gentilhomme. Elle avait pour habitude de nous rappeler qu'il y avait des conduites qui n'étaient pas dignes d'une dame ou d'un gentilhomme. Il y a une manière de se conduire qui est digne de l'Évangile. Et tout comme il y a des conduites qui ne sont pas dignes d'un gentilhomme ou d'une dame, il y a aussi une conduite qui n'est pas digne de l'Évangile de Christ. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que l'Évangile? On parle du royaume de Dieu. dans lequel tous vont observer la loi divine. Donc, si notre conduite, à vous et moi, est contraire à la loi de Dieu, nous avons donc une conduite qui n'est pas digne de l'Évangile de Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Et encore une fois, posez-vous la question, y a-t-il une seule Église de Dieu sur terre, ou y en a-t-il plusieurs? On parle d'un même esprit. Les autres groupes, tout comme les protestants, veulent croire que le corps de Christ est cet ensemble disjoint de chrétiens sérieux, plutôt que de non seulement, comme ils diraient cela. Et cela, quelle que soit leur foi, leur croyance ou leur congrégation. Alors, ça ne tient pas la route à différents endroits comme celui-ci, puisqu'on parle d'un seul esprit. Cela est parallèle à quelque chose de vraiment uni, unifié ici. Combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. On peut se demander comment les méthodistes, les presbytériens, les baptistes peuvent faire une telle chose. Ils ne sont pas capables. Ils ne le font pas. Ils se rencontrent tous pendant la semaine au travail, puis tout à coup, le dimanche, ils se dirigent tous vers le même coin, où vous allez retrouver, par exemple, quatre grosses églises sur le même carrefour. Alors, vous avez les amis de la semaine qui, tout à coup, le dimanche, entrent dans les églises des méthodistes, des presbytériens, des baptistes et des épiscopaliens au coin des rues principales et des érables. Ça n'a aucun sens. Ils ne peuvent combattre d'un même esprit pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Ont-ils les mêmes sentiments? Ils se dirigent dans quatre édifices différents. Sont-ils du même esprit? Bien sûr que non. Est-ce qu'ils croient tous la même chose? Absolument pas. Combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Ils n'ont même pas le même Évangile. En fait, ils ne savent même pas ce qu'est l'Évangile. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Alors, on peut même dire que les gens dans les églises du monde ne sont pas terrifiés par leurs adversaires, hein, d'une manière ou d'une autre. Et j'aime bien le dire, frères et sœurs, ça va être aussi notre approche à nous. Nous ne nous laisserons aucunement effrayer par les adversaires. Nous avons l'intention d'avancer avec force, totalement déterminés à compléter l'œuvre de Dieu. Et nous poursuivons au verset 28 avec un point intéressant qui dit « Ce qui est pour eux une preuve de perdition ». C'est-à-dire un signe de destruction. Ou nous pouvons dire qu'au figuré, cela devrait leur rappeler à chaque fois qu'ils attaquent cette œuvre qu'ils seront détruits. Nous ne devons pas être effrayés par nos adversaires. C'est eux qui devraient être terrifiés parce qu'il existe une preuve, un signe de leur perdition, alors qu'ils essaient d'ajouter de la tribulation à nos liens. Nous savons qu'ils vont rater leur coup, car nous avons une porte qui est ouverte devant nous et que personne ne peut fermer. Mais les attaques qu'ils dirigent contre nous doivent être un signe ou une preuve pour nous, et si vous lisez comme il faut, c'est le sens qui est impliqué ici, une preuve de salut, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Donc, lorsque nous sommes attaqués, parce qu'il est écrit, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Il s'agit de nous tous ici. Et comme il est aussi écrit, « S'ils vous ont persécutés, ils vont aussi vous persécuter. » En parlant de nous. Donc, nous portons en nous et avec nous, au figuré, un signe de salut. Cela, bien entendu, si vous combattez d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Autrement dit, si vous participez à l'œuvre de Dieu, au maximum de vos possibilités à tout moment de votre vie. Un même esprit et un même cœur. Verset 29, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Donc, nos souffrances, lorsque nous sommes persécutés, alors que nous défendons l'Évangile, est-ce que vous seriez prêt à mourir en défendant l'Évangile? J'ai déjà donné un sermon complet sur ce sujet. Le titre était « Établi pour la défense de l'Évangile », je crois. J'en ai aussi parlé dans le livre « The Work of God ». Donc, au nom du Christ, il nous est fait la grâce de souffrir. Mais nous portons avec nous un signe, hein, une preuve, que si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Et il poursuit au verset 30, « En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. » Alors, nous sommes maintenant rendus au moment où ça devient merveilleusement encourageant. Et examinez pour voir si cela vous décrit. Si donc il y a quelque consolation en Christ, alors frères et sœurs, il y a énormément de consolation en Christ. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, nous savons que l'amour est vraiment rempli de consolation. Alors, il s'agit ici tout simplement de questions pour la forme. S'il y a quelque union d'esprit, hein, de fraternisation, c'est ce que nous devons faire avec tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, et le mot grec encore ici pour compassion parle encore d'entrailles, c'est intéressant. Si nous avons des sentiments profonds à l'égard des autres, et si nous recevons ou donnons de la miséricorde, alors Paul ici est en train en fait de décrire tout le monde. Hein? Comme je disais, c'est une question pour la forme, parce que la réponse est bien sûr. C'est en train de décrire exactement ce qu'est le christianisme. Alors tout ça sert en quelque sorte de prémisse pour ce qui suit. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Ou en français, on pourrait le traduire par une même façon de penser. En d'autres mots, bien sûr que les chrétiens doivent être joyeux. Bien sûr, il y a de consolation en Christ. Bien sûr, il y a du soulagement dans l'amour. Et bien sûr, il y a l'union de l'esprit. Et bien sûr, il y a de la compassion et de la miséricorde. Et en abondance, hein, pas juste un petit peu. Et bien sûr, un chrétien doit rendre parfaite la joie de Paul, mais aussi celle de Christ. Car Christ nous a dit qu'il nous laissait sa joie. Il nous a laissé sa paix, mais il nous a aussi laissé sa joie, ce qu'il a dit la dernière nuit avant sa crucifixion, afin que vous ayez un même sentiment. Alors encore ici, il n'y a pas de place pour différents groupes. Christ a dit, je vais bâtir mon Église. Il parlait d'une seule Église. Nous avons vu que Paul voulait qu'il demeure ferme dans un même esprit et combattant d'une même âme, mais il est dit ici au verset 2, d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Demandons-nous jusqu'à quel point l'Église de Dieu est-elle supposée être unie? Et aussi, demandons-nous combien ridicule que les gens du monde puissent croire que toutes les églises du monde appartiennent à Christ, ou encore que Christ a de ces gens en leur sein, ou encore que les autres groupes en sont venus à adopter le point de vue du monde. Alors voici jusqu'à quel point cela est ridicule. Le verset 3 dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou de querelle ou par vaine gloire. » En fait, il n'y a absolument rien d'autre que des querelles et des désaccords entre les différentes églises dans le monde. Chacune d'entre elles essaie toujours de se placer au-dessus des autres. Ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est la façon de penser que nous devrions avoir dans l'Église. Si vous regardez les gens, la plupart des gens essayent de se vanter ou essayent de se mettre au-dessus des autres. Or, l'amour ne se vante pas. Si vous jetez un coup d'œil sur 1 Corinthiens 13, on voit qu'on y parle de 20, 22, 23 qualités de l'amour. Et l'amour ne se vante pas. Verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et on ne parle pas de convoitise ici. En d'autres mots, ne vous inquiétez pas à propos de vos propres affaires et préoccupez-vous aussi de celles des autres. Prenez soin des autres. Rappelez-vous, nous sommes les gardiens de notre frère et de notre sœur. Vous devez vivre votre vie en vous préoccupant des choses des autres. Pas dans le sens, par exemple, où quelqu'un pourrait se dire, « Moi, je conduis une vieille Volkswagen, puis mon frère à côté conduit une Cadillac. C'est un genre de commandement que j'aime. Je veux avoir une Cadillac. » C'est pas ce que ça signifie ici. Je suis certain que tout le monde comprend bien le sens, hein? Surtout parce que la version anglaise l'écrit d'une façon un peu bizarre. En résumé, cela signifie qu'il faut se préoccuper des besoins des autres. Est-ce que vous pouvez voir, constater les choses à travers lesquelles les autres passent? Et je ne parle pas seulement des choses qu'ils possèdent ici. Et en fait, la meilleure traduction, c'est ce qui a été dit ici en français, de considérer ses propres intérêts. On peut supposer quels sont leurs besoins, hein? Quelles sont leurs préoccupations aux autres. Tout cela est dit immédiatement après avoir parlé d'esprit de parti, hein? De querelle, de vaine gloire. et qu'il y a besoin d'humilité et de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Bien entendu, considérer les autres au-dessus de soi-même ne signifie pas d'aller voir une personne et l'autre et dire « t'es au-dessus de moi, puis toi t'es meilleur que moi, puis moi je vois rien », puis c'est pas la signification de ce verset-là. C'est tout simplement se dire qu'il y a des gens qui sont capables de faire quelque chose ou des choses mieux que vous êtes capables de les faire. Je vais faire preuve peut-être d'un peu de candeur ici avec vous. J'essaie continuellement de me rappeler à moi-même, à cause des responsabilités que j'ai à remplir, que je dois continuer d'être petit à mes propres yeux. Et j'essaie constamment de me rappeler qu'il y a dans le bureau où nous travaillons beaucoup de personnes qui sont capables de faire beaucoup de choses bien mieux que je suis capable de les faire. Et c'est très vrai. Et c'est le genre de choses que vous devez aussi faire dans vos propres vies. Il y a de multiples choses qu'il y a des gens qui sont capables de faire dans ce bureau ici que je ne suis même pas capable de faire. Verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les mêmes idées qui étaient en Jésus-Christ. » Alors, on peut se demander, quelles idées? Alors, on sait que le contexte est la question d'humilité ici. Alors, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il savait très bien qu'il était Dieu. Il était Dieu dans la chair, Emmanuel. Mais s'est dépouillé lui-même. Autrement dit, il a choisi de le faire, en prenant une forme de serviteur. Alors, on peut se demander combien plus devons-nous nous faire la même chose. Nous ne sommes pas Dieu. Peut-être qu'un jour nous allons l'être, si nous adoptons ce genre d'attitude, ainsi que plusieurs autres, en prenant donc une forme de serviteur, ou en grec, d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il est né de Marie, sa mère, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. La majorité des gens sont prêts à obéir. Je parle ici des chrétiens. Les hommes du monde n'obéiront à rien. Ils n'obéissent même pas aux lois des hommes, encore moins à celles de Dieu. Mais on sait que la majorité des chrétiens seraient au moins prêts à essayer d'obéir à Dieu. La question est de se demander, est-ce qu'ils seraient prêts à le faire jusqu'à mourir? Alors, est-ce que c'est votre façon de voir? Je suis prêt à obéir, mais peut-être pas, je ne veux pas mourir. Donc, obéissant jusqu'à la mort. Et c'est un verset que j'ai revu avec mon épouse. Elle voulait, comme le dit mon fils dans sa sermonnette, elle était prête, elle voulait mourir. Elle était prête à mourir. Même jusqu'à la mort de la croix. Et il n'y a personne d'entre nous qui veut faire cela. Alors, voilà une expérience qui serait humiliante. C'est quelque chose qui serait extrêmement difficile. Incroyablement douloureuse. Alors, prenons par exemple si vous mourrez à la fin d'une longue vie pendant que vous êtes en train de vous bercer. Alors, vous pensiez être en bonne santé et vous avez tout à coup une attaque cardiaque. Peut-on dire que vous étiez prêt à mourir? Vous ne savez même pas que vous êtes mort. Quelle souffrance vous avez eue, là? Ou encore, si vous faites frapper par un camion, mais en arrivez à mourir nu, avec vos os qui ressortent partout. Et je dis cela parce que c'est la façon dont les Romains crucifiaient les gens. Christ n'avait même pas eu ce petit linge-là qu'on voit d'habitude sur les images. Alors demandez-vous jusqu'à quel point cela pouvait être humiliant. Les lions mangeaient les chrétiens également alors qu'ils étaient nus. Les gens les envoyaient dans l'arène et ils étaient déchirés et mis en pièces. Et je crois qu'on peut dire avec certitude qu'ils espéraient pouvoir mourir rapidement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la mort sur la croix ou sur le poteau en était une mort incroyablement douloureuse et humiliante. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça prenait l'humilité ultime pour accepter d'être mis en pièces dans des souffrances horribles et de mourir nu par amour pour l'humanité, accroché sur un poteau où tout le monde, tous les passants pouvaient vous voir. Réfléchissez à cela. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. L'être qui a créé le soleil, la lune et les étoiles, hein, chacune des 10 milliards de trillions d'étoiles. Si je me trompe bien, c'est bien le nombre. Hein? Alors, mon gendre est un expert avec ces chiffres-là et il me fait signe que oui. Donc, cet être qui a créé toutes ces choses-là, qui a créé toute la vie qui existe dans l'univers, en est réduit à être pendu à un bois avec le corps démis totalement, saignant un peu partout, nu devant des gens, en train de se moquer de lui et de l'accuser. Verset 10. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors c'est quelque chose qui va arriver un jour, ce n'est pas encore arrivé. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, et voici un des versets les plus importants de la Bible, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous ne pouvez pas travailler à la place de quelqu'un à leur salut. Vous pouvez avoir à cœur leurs intérêts, mais il est dit ici, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. À quelle fréquence est-ce que vous tremblez littéralement juste à l'idée de penser que vous pouvez rater votre coup? Littéralement, là, avec crainte et tremblement. Le mot grec est tromos, qui signifie vraiment trembler. Le mot crainte, c'est vraiment crainte, en grec phobos, hein, d'où vient phobie, et sa signification est vraiment crainte, hein, la peur. Et tremblement signifie trembler. Est-ce qu'il vous est arrivé de littéralement trembler juste à l'idée que vous pourriez perdre votre salut? Si ce n'est pas le cas, alors vous ne travaillez pas réellement à votre salut avec crainte et tremblement, à l'idée de perdre votre salut. Personnellement, je tremble. Je tremble à l'idée de ne pas réussir. Dieu nous dit qu'il va porter ses regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint sa parole. Nous devons trembler devant la parole de Dieu. On sait très bien que les petits-enfants vont trembler devant la parole des parents, par exemple. Ça m'arrivait parfois de trembler lorsque mon père me parlait. C'était un peu comme si j'avais grimpé le mont Olympe pour aller à la rencontre des dieux. Mon père pouvait être très dur. Et c'est quelque chose qu'il a fait par exprès, parce qu'il voulait leur enseigner un certain type de crainte. C'était un homme absolument merveilleux. Je vous le dis, merveilleux. Et ne vous méprenez pas là, lorsque je parle de lui. J'aimais mon père, mais je le craignais. Alors, je vous pose la question, combien plus est-ce que nous devons craindre notre Père spirituel qui est dans les ciels, dans le ciel, le Dieu qui travaille en vous? Car, verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si vous voulez obéir à Dieu, ce n'est pas encore suffisant. Dieu doit vous donner cette capacité-là. Mais si vous comprenez réellement le sens du salut, vous savez que Dieu doit mettre en vous le désir de changer et de croître, et la capacité de le faire. Ce n'est pas vous qui êtes capable de produire la volonté nécessaire pour cela. Si vous voulez réellement obéir à Dieu, alors vous devez le remercier, car ce n'est pas vous qui êtes capable de produire ce genre de volonté-là. Parce qu'il est écrit ici, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Alors n'allez pas croire que c'est vous qui donnez ou qui fournissez la volonté. Cela est vrai pour tout le monde. Faites toute chose sans murmure ni hésitation. Et le mot hésitation ici pourrait signifier dispute, hein, obstination. Alors, est-ce que c'est ainsi que l'Église de Dieu restaurée fonctionne? Hein? Dire, par exemple, je pense que c'est comme ça que ça devrait se faire, ou c'est comme telle autre façon que ça devrait se faire. Au fur et à mesure que l'Église va croître, qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont venir nous rejoindre, vous allez vraiment être étonné de voir comment est-ce qu'il va y avoir de personnes qui vont tout à coup avoir des opinions. Lorsqu'on se retrouve dans l'ère de Laodicée où c'est le peuple hein, qui juge et décide, et que les enjeux deviennent encore plus importants, franchement, les gens ne devraient pas avoir plus à dire encore, ils devraient avoir encore moins de choses à dire, car ça dépasse tellement l'expérience qu'ils ont pu vivre jusqu'à maintenant. Mais il y a une curieuse ironie qui se produit dans le monde, et j'ai vu cela souvent. Au fur et à mesure que les enjeux augmentent dans une compagnie, par exemple, et que les décisions qui sont prises ou qui doivent être prises ont une portée plus considérable, hein, ou plus importante. Alors que les gens sont le moins qualifiés pour donner leur opinion, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Et ils vont donner leur opinion encore d'autant plus rapidement. Ils vont contester les choses. Alors, ce n'est pas tout à fait le contexte général ici, là. Le contexte, en réalité, ici, c'est que c'est les gens qui ont un même esprit, qui combattent une même âme pour la foi, là. Ils ont les mêmes sentiments. Donc, il n'y a pas de place dans l'Église pour murmurer, hein, ou disputer, ou contester. Et c'est exactement une des choses que j'aime au point de vue du siège de l'Église ici au quartier général. Il existe une unité magnifique. Elle n'est pas encore parfaite, mais on ne voit pas le genre de contestation et d'obstinage que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs endroits dans des grandes congrégations à travers mon pastorat. Bien sûr, si on jette un coup d'œil vers le passé, on s'aperçoit que la majorité de ces gens-là n'avaient même pas l'Esprit de Dieu. Mais j'apprécie énormément le fait que nous ayons, hein, que nous puissions bénéficier de cette unité-là. Et quand nous avons la désunion, ce qui est rare, hein, c'est quelque chose qui est choquant. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons pu voir au quartier général à quelque niveau que ce soit depuis des années. C'est quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas, ça peut-être arriver cette semaine, mais ce que j'essaie de dire, c'est que sans doute ça peut continuer comme ça pendant des années à bien aller. Si on est prévenu contre cela et si on met en pratique des versets comme Philippiens 2,14 ici. Verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Alors, peu importe les quelques 30 nations d'où vous provenez et qui entendez ces versets-là et ce sermon-là, mais je sais qu'il va y avoir en fait des gens de bien plus de nations encore que cela à travers le monde, ainsi que dans les autres groupes et groupuscules. Alors, si je me souviens bien, il y aura entre 6 000 et 10 000 sermons par semaine qui sont téléchargés. Et cela, c'est sans compter ceux qui sont dans la section de service aux membres, hein, les membres de l'Église de Dieu restauré. Donc, ça fait un bon nombre de sermons. Alors, pour revenir à ce que je disais, quelle que soit la nation où vous vivez, ou le territoire, ou la colonie, nous sommes tous dans une génération perverse et corrompue. C'est notre monde. Et c'est 1 Jean 5,19 qui dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais le mot grec signifie aussi la méchanceté. Or, on sait que Satan a séduit le monde entier, donc ce n'est pas étonnant qu'une telle chose existe. Quelle que soit la nation où vous vous trouvez en entendant ceci, devinez quoi? Ça s'adresse à vous, et non pas à l'ancienne Grèce seulement. Et verset 16, portant la parole de vie, « Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. » Donc, si Paul était mis à mort, ce qui n'était pas encore arrivé à ce moment-là, il disait qu'il s'en réjouirait. Et si cela arrivait, il considérerait qu'il mourait pour le service de leur foi. Et il leur disait, « Je me réjouis avec vous autres, hein? Ne vous attristez pas d'une telle chose. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. » J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, comme on dit, c'est une belle recommandation ici, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne, hein, ici qui partage mes sentiments, autrement dit qui a la même façon de penser que moi, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Par contre, ce n'est pas vraiment un beau genre de compliment pour Timothée ici. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. Je suppose que si vous étiez quelqu'un d'autre de Timothée, vous pourriez peut-être dire, « Hé, minute là, Paul, ça fait quand même un bout de temps que je suis ici. Qu'en est-il de moi? » Je suppose, lorsqu'il disait, cela n'incluait pas Luc, qui était médecin, hein, qui n'était pas dans le ministère. Donc, Luc était sans doute exempté, mais qu'est-ce qui arrivait avec tous les autres ministres? Alors, bien sûr, on peut penser à Clément et à Linus, qui sont devenus le deuxième et quatrième pape. Ce sont deux ministres qui ont été entraînés par Paul et qui sont devenus le deuxième et quatrième pape. Alors, comme trahison, on peut trouver difficilement mieux. C'est un enveloppe d'eux qui cherchaient leurs propres intérêts. Et c'est certainement pas quelque chose qui va les aider au moment de la résurrection. Alors, on peut espérer tout simplement que Clément de Rome, parce que c'était son nom, et Linus n'étaient pas réellement convertis. Mais on est au courant et on sait qu'il y en a qui se sont dispersés et ont abandonné Paul. Et on peut penser à Alexandre le forgeron, qui n'aurait pas pu faire grand-chose de mal à Paul s'il était juste quelqu'un du monde. Et on peut supposer que Paul n'aurait pas pris la peine de le mentionner si ce n'était pas quelqu'un qui avait tout simplement abandonné l'Église pour chercher ses propres intérêts et se tourner contre Paul ensuite. Et il y en avait plusieurs d'autres qui faisaient la même chose, car c'est écrit, en effet, « Tous cherchent leurs propres intérêts ». Mais Timothée était tout de même quelqu'un de différent, et non ceux de Jésus-Christ. Et il y a quelque chose auquel je réfléchis, et à chaque fois, ça me renverse. Il y avait près de 2000 ministres du temps de M. Armstrong, dans différents genres, différents postes, sans compter les milliers de diacres et les quelques 1200 employés. Et nous savons que la majorité de ces personnes-là étaient mariées. Alors, dans le fond, ça fait pratiquement 6000 personnes là, qui sont comptées ensemble, et auxquelles il faut additionner les diacres. En fait, j'essaie de réfléchir à toutes les personnes possibles là, qui étaient dans des postes différents et qui pouvaient produire des changements ou qui pouvaient retenir la foi. Hein? Où est-ce qu'ils sont rendus? Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Se sont tout simplement retrouvés en position de chercher leurs propres intérêts, leurs propres amis, leur propre confort, hein, leur propre plaisir, leurs jouets, vivent leurs propres expériences. Il y en a même qui ont abandonné leur propre groupe. Certains voudraient me dire, toi aussi. Non, je n'ai jamais fait ça. Et si vous regardez comme faux mon passé, l'histoire, ce n'est pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas commencé mon propre groupe. Je suis d'abord allé avec quelqu'un d'autre. Et pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Tout simplement parce qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit de partir mon groupe. Et la seule autre personne qui a été en quelque sorte témoin de cela est morte il y a de cela 7 semaines. Ce n'est jamais quelque chose qui m'est même venu à l'esprit, pas même pour une fraction de seconde. Ma femme savait que j'ai jamais pensé à ça. Je suis la personne la plus volubile qu'elle ait jamais connue, et vous savez vous-même que je le suis, et j'ai jamais parlé d'une telle chose. Je n'en ai jamais dit un mot. Sans compter que j'ai eu l'occasion de me séparer au moment où l'Église globale s'est séparée pour emprunter une troisième voie. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de penser que j'aurais peut-être dû le faire, mais ce n'est pas quelque chose qui est venu à mon esprit. Et tout cela jusqu'au moment où il est devenu tellement évident pour moi qu'il n'y a personne d'autre qui va retenir les choses que nous avions. Personne ne va le faire. Alors c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision. Je ne vais pas revenir là-dessus encore. Verset 22, « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Il y a deux personnes que je considère comme des fils, hein? Mon propre fils ainsi que mon gendre, qui est comme un fils pour moi. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que peut-être je comprends très bien la façon dont Paul pouvait se sentir à ce moment-là, et d'autant plus que de la situation ordinaire, plus que j'aurais pu le sentir il y a quelques années, bien que ce ne soit pas tout à fait semblable. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Alors, il voulait leur dire qu'il irait sans doute les voir bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. Il y a des noms qui sont vraiment étonnants ici, et je me demande parfois comment est-ce qu'on l'appelait quand il était jeune. Épi? Ou Didi, ou peut-être même Frodi. Alors, je ne sais pas exactement. Hein? On a encore beaucoup de choses à couvrir. On va laisser le côté spéculation sur le nom. Donc, Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Alors, voici encore une belle recommandation hein, pour une personne. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. En d'autres mots, il a travaillé tellement fort que cela lui a pratiquement coûté la vie. Alors, vous pouvez certainement vous imaginer de la façon dont je prends ces versets-là, pendant cette période-ci. Ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Il est obligé d'en faire trop parce que d'autres n'en faisaient pas autant qu'elles auraient dû en faire. Ou je pourrais dire qu'elles auraient pu en faire d'autres et n'étaient pas capables de le faire. Je ne peux pas m'empêcher de penser à combien ma femme a donné. Et puis, elle n'a pas été délivrée à la fin, alors qu'Épaphrodite l'a été. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Alors, Paul nous donne ici un ordre, dans le fond, direct, lorsqu'il nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Au chapitre 4, verset 4, nous pouvons lire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. En fait, au moins à trois reprises, il peut même le dire une quatrième fois, je m'en souviens pas, il nous dit de nous réjouir. Nous savons qu'il a déjà dit au début « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment ». C'est une autre des occasions, dès le début, où il parle de la joie. Les chrétiens doivent être joyeux, heureux. Je me souviens très bien d'avoir dit dès les premiers temps de l'Église de Dieu restaurée. C'est que nous devons être, et nous devons être reconnus pour un des groupes les plus joyeux, heureux. Et cela parmi tous les autres groupes et groupuscules, et en réalité, dans le monde entier. Nous devrions être l'endroit qui est l'endroit le plus heureux du monde, la plus joyeuse des organisations, le plus joyeux des groupes. Et d'autant plus que nous nous dirigeons là présentement vers une fête que Jude appelle la fête de l'amour. Mais tout en nous disant ça, Paul nous dit aussi « Prenez garde aux chiens ». Je me promenais sur mon terrain ce matin et tout à coup j'ai vu ce gros labrador qui est réellement comme, on pourrait dire, un teddy bear, mais qui se prend pour une espèce de gros lion rugissant. Puis il ne cesse de japper lorsque je passe à côté. Il s'appelle Murphy. Alors, il m'arrive souvent de sortir avec mon café puis marcher comme ça les jours de sabbat. Je suis sur le bord de la haie. Et puis, Murphy de l'autre côté de la haie, lui, puis il me sent, il me sent ou m'entend passer. Alors, il commence toujours à japper. Puis là, j'ai dit, Murphy, c'est un ami. Et il continue de japper, il m'a pas cru. Et puis là, je m'éloigne un peu. Là, tout à coup, on entend son maître, mon voisin, qui dit, Murphy, tais-toi! Alors, ça diminue un peu. Puis là, je dis, Bill, j'ai essayé de lui dire que j'étais un ami, mais il m'a pas cru. Alors, on faisait des farces à ce sujet-là ce matin. Mais pour revenir à notre sujet, c'est pas de ce genre de chien-là, ici, que Paul parle. Il parle des faux ministres. Alors, si vous croyez que Dieu n'est pas capable de parler directement, il les appelle des chiens. Et à un autre endroit, il les appelle des queues, des queues de chien. Si vous voulez vraiment comprendre ce que Dieu pense des faux ministres, croyez-vous que c'est sérieux d'être un faux ministre? De prêcher Christ avec un esprit de dispute ou avec des motifs qui ne sont pas purs et pour l'apparence? C'est sérieux. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Alors, je le répète, si Christ n'était capable de rien faire de lui-même alors qu'il était dans la chair, combien moins pouvons-nous le faire? En fait, on ne pourrait même pas dire combien moins nous, parce que la chair, c'est la chair. Il n'y a donc rien de magique à propos de la chair de Christ par rapport à celle qui est la nôtre. Mais il en serait exactement la même chose pour nous, si vous voulez bien le comprendre. Quant à nous, nous avons deux parents physiques. Pour ce qui est de Christ, il y avait un parent physique et un autre qui était fait d'esprit, son père, et il disait quand même que la chair ne valait rien. Paul disait, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » On trouve ça dans Romains 7. Donc, il n'avait aucune confiance dans la chair. J'ai commencé à faire de l'exercice, de lever de poids, des choses de même, et ça vous change un peu. Alors, il y a un endroit où je me rends, parce que j'aime bien, même si la musique est absolument horrible. Et à toute fois que je l'ai, toutes les fois que je rentre, je vois tout simplement fermer la musique. Et je me dis, jusqu'à ce que quelqu'un de plus gros arrive, la musique reste fermée. Il y a une fois, je regardais à plusieurs personnes, plusieurs gars qui étaient là en entour, puis je leur ai demandé s'ils voulaient vraiment, s'ils voulaient pas la baisser un peu. Un autre, il dit non. Il dit pas vraiment. Il dit, sais-tu, j'aime ça fort. J'ai dit, sais-tu quoi? J'ai dit, moi, j'aime pas ça. Puis le fermer, il n'a rien fait. Alors, quoi, il mesurait à peu près 3 pieds de haut. Alors, ça a été facile pour moi de faire ça, malgré qu'il y a plusieurs de ces gars-là qui sont pas mal gros. Et puis, il y a des miroirs par un peu partout. Et c'est très difficile de pas regarder les miroirs. Alors, c'est facile de s'arrêter puis commencer à se regarder. Alors, si vous commencez à faire des levées de poids, c'est une chose que j'ai faite pendant bien des années. C'est quelque chose que j'ai fait pendant 28 ans. Ensuite, j'ai arrêté pendant 12 ans. Et là, je leur commence à le faire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais j'ai décidé que c'était mieux que je le fasse dans mon sous-bassement, hein, dans mon sous-sol, là où il y a moins de miroirs, comme dans aucun. Mais c'est mieux de n'avoir aucune confiance en la chair, absolument aucune. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël. Alors, il aurait été important pour les Juifs d'avoir confiance en la chair, n'est-ce pas? D'être reconnu dans la douche comme Juif, si vous étiez un homme. Ce qui aurait été plus difficile pour les femmes, je le reconnais. De la tribu de Benjamin. Alors, il parle de chair ici, là, vraiment. Ensuite, Hébreu, né d'Hébreu, ça aussi, c'est en rapport avec la chair. Quant à la loi, pharisiens, alors ceux-ci conservaient leur chair extrêmement propre. Si vous vous souvenez comment ils lavaient leurs plats, hein? Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Alors, dans ce temps-là, ils observaient la loi à la lettre, physiquement. Alors, ça a beaucoup de choses à faire avec la chair, encore une fois. Par contre, son esprit n'était pas tellement bien. Et je dis cela que personne n'est capable de vraiment observer la loi sans avoir l'esprit de Dieu. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue. Alors, il parle ici d'un terme en 4 lettres, mais le mot grec signifie les excréments, afin de gagner Christ. Alors ici, Paul considérait toute sa vie précédente, hein, la totalité de ce qu'il avait fait, comme un mot de à 4 lettres, qu'on pourrait traduire par excrément. Est-ce que c'est aussi ce que vous ressentez? Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Il s'agit d'une justice totalement différente ici. Les Romains essayaient de bâtir leur propre justice, car ils étaient ignorants de la justice de Dieu, ce qui n'était pas le cas de Paul. Il avait pu contester ce qu'une justice humaine vous donne, c'est-à-dire une vie humaine qui était remplie de toutes sortes de choses qui avaient été accomplies, mais qui, en fin de compte, pouvaient être résumées à un mot de 4 lettres. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. On peut même dire que Paul a tellement souffert qu'il est pratiquement devenu conforme à lui, presque littéralement, à cause de tout ce qu'il a souffert, d'avoir été battu, lapidé, etc., pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. En d'autres mots, quelle différence ça fait, ce que nous avons, ce que j'ai à traverser? Si vraiment vous vous concentrez sur le royaume de Dieu, alors quelle différence est-ce que ça fait réellement? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non, il présumait de rien ici. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et si vous voulez réfléchir, c'est à peu près ce qui s'est passé entre Christ et Paul sur la route de Damas. Paul a été saisi par Jésus-Christ à cette occasion-là. Et bien entendu, c'est la même chose que Christ fait en ce qui nous concerne chacun d'entre nous. C'est un peu comme si Christ nous avait arrêtés, nous avait appréhendés. Et pour six frères, je ne pense pas l'avoir saisi. c'est-à-dire vraiment comprendre totalement ici, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà cette chose que je fais. Ce qui est l'équivalent de chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est cela le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ensuite, nous rencontrons un des versets les plus inspirants de toute la Bible. Les gens, souvent, ne le lisent même pas, ils arrêtent simplement au verset 14. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ou qui voulons l'être, ayons cette même pensée. Alors, de quelle pensée parle-t-il ici? C'est celle qui dit « oubliant ce qui est en arrière », oublier les vieux péchés, les choses du passé, et vous vous portez vers ce qui est en avant, vous courez vers le but, afin d'obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, si vous voulez être parfait, voilà cette pensée que vous devez avoir. Alors, je le reprends. On dit, nous tous qui sommes parfaits, ayons donc cette même pensée. Et si vous êtes, le passage qui m'inspire le plus ici, si vous êtes en quelque sorte d'un autre avis, c'est-à-dire vous n'avez pas cette même pensée-là, que vous n'êtes pas parfait, que vous n'oubliez pas le passé, et que vous ne vous portez pas vers l'avant pour atteindre le fameux but, alors il le dit ici, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il va vous révéler ce qui est nécessaire. Donc, arrêtez de vous inquiéter. Il y a plusieurs personnes que je rencontre dans les séances de counseling qui disent « J'espère que je fais tout ce qu'il faut. » Ils rajoutent « Je m'inquiète à savoir si vraiment je fais vraiment toute chose, ou si je plais à Dieu, ou si je ne plais pas. » Et puis, je me demande si j'étudie correctement, ou si je le fais assez. Ou encore si je jeûne de la bonne façon, ou si je prie correctement. Mais je me demande même si je sers suffisamment. Je m'inquiète à propos de ces choses-là. Je m'inquiète parce que je suis pas certain que je fais tout ce qu'il faut que je fasse. Alors, arrêtez. Arrêtez de vous inquiéter. Et voici la promesse que Dieu vous fait, frères et sœurs. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ne vous inquiétez pas. On va vous le montrer si vous avez des défauts ou des fautes. Votre étude biblique peut s'améliorer, vos prières peuvent s'améliorer, votre jeûne peut s'améliorer, votre conduite chrétienne peut s'améliorer, vos pensées. Tout ce qu'un être humain est, fait, pense et dit, tombe dans trois catégories. Il n'y a pas quatre, cinq autres catégories, il y en a juste trois. C'est soit ce que vous dites, ce que vous faites ou ce que vous pensez. Vous pouvez essayer et tenter de trouver quelque chose, de n'importe quel aspect de votre vie qui ne tombe pas dans une de ces trois catégories-là. Alors, ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Et si vous voulez le réduire vraiment à deux catégories, il y a possibilité aussi, ce que vous dites peut aussi être inclus dans ce que vous faites. Et si vraiment vous voulez aller plus loin et le réduire à un, vous pouvez aussi le faire. C'est ce que vous faites. Parce que ce que vous faites inclut, en quelque sorte, ce que vous pensez. C'est cela que vous faites. C'est selon ça que vous agissez. Alors, j'espère que vous comprenez, mais généralement, je le divise dans les trois catégories. Mais être un chrétien, c'est ce que vous faites. Et on peut même ajouter que de façon ultime, ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Donc, s'il y a des domaines dans votre vie où vous vous dites, je ne sais pas si je le fais correctement ou si je fais assez de ceci ou de cela, alors ne vous inquiétez pas, Dieu va vous éclairer là-dessus. Aussi longtemps que vous allez chercher premièrement le royaume de Dieu, qui est le prix céleste de la vocation de Dieu en Jésus-Christ, et que vous allez décider d'oublier le passé, parce qu'il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour changer ce passé-là. Sauf, bien entendu, si jamais vous avez péché contre quelqu'un, vous pouvez retourner pour vous lui demander pardon. Mais même si vous le faites, ça ne change pas le péché qui a été commis, si vraiment vous voulez y réfléchir. En réalité, c'est se porter vers l'avant pour essayer un petit peu d'adoucir la douleur ou la souffrance qui aurait pu être causée dans le passé. Mais ça n'aurait pas changé ce passé-là. Vous avez quand même fait ce que vous avez fait. Il n'y a donc rien réellement à gagner à vous concentrer sur le passé. Ce n'est pas une chose que vous devriez faire. Donc, quels que soient les regrets que vous puissiez avoir, ne vous inquiétez pas au sujet du passé. Changez plutôt en vous portant vers l'avant, en courant vers l'avant. Courez vers le but. Seulement, verset 16, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Pensons les mêmes choses. Soyez tous mes imitateurs, frères. Paul dit à d'autres personnes qu'aux Corinthiens d'être ses imitateurs. Si je me rappelle bien, c'est dans 1 Corinthiens 11 au verset 1 où il leur dit « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis l'imitateur, j'imite Christ. Hein? » Et je crois qu'il l'a répété aussi dans 1 Corinthiens 4, 16. Alors ici, il dit « Soyez mes imitateurs » et on présume bien entendu qu'il signifie « Comme moi-même je le suis de Jésus-Christ. » Oh, il y en a qui vont dire « Tu suis un homme. » Je suivais Herbert Armstrong, mais je n'ai jamais pensé que je suivais un homme parce que c'était automatique pour moi. Je le suivais comme il suivait Christ. Si jamais un ministre vous disait « Suis-moi », est-ce que vous le feriez en lui disant « Non, non, moi je ne suis pas des hommes ». Il faut présumer qu'il suit Christ là, lorsqu'il vous dit ça. Et il poursuit, il dit « Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous ». Donc, si vous m'avez comme modèle, portez aussi les regards sur ceux qui sont mes imitateurs, parce que vous les avez maintenant aussi comme modèle, tout comme vous nous avez comme modèle, en parlant de nous dans le ministère. On ne parle pas seulement d'apôtres ici. Donc, si nous est un modèle et que d'autres nous suivent, donc vous devez suivre aussi leur exemple, parce que nous sommes ici pour être un exemple. Et si d'autres suivent le même modèle, alors eux aussi sont devenus d'autres exemples à suivre. Car, verset 18, « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Il va y avoir énormément de gens qui vont être totalement abasourdis lors de la résurrection. Lorsqu'ils vont constater qu'ils ont raté leur coup. En fait, ils n'auront pas raté la résurrection, mais certains d'entre eux vont tout simplement être ressuscités dans une résurrection différente. Et je souhaite ardemment qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent être ressuscitées lors de la deuxième résurrection, hein, des gens qui étaient dans l'Église, et non pas lors de la troisième. Alors, ils pourront s'apercevoir à ce moment-là qu'ils n'ont jamais été appelés, qu'ils ne pensaient qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. En fait, ce que ça signifie ici, c'est que notre citoyenneté est céleste, nous autres. C'est de là qu'est notre patrie. Alors, pour mieux l'expliquer, nous avons tous une citoyenneté, que ce soit français, que ce soit américain, que ce soit canadien. Mais notre citoyenneté ultime, c'est celle qui est dans les cieux, au ciel. Alors, nous ne votons pas, nous ne combattons pas dans l'armée, mais nous sommes au service d'un gouvernement supérieur. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Je crois que c'est dit dans 2 Corinthiens 5, 20, ça. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. D'où? C'est à se demander pourquoi est-ce que les gens ne sont pas capables de voir cela, là. C'est pas là où nous allons. D'où nous attendons aussi le sauveur? Nous attendons que lui vienne ici. Qu'ils viennent du ciel jusque sur la terre. En fait, c'est juste une petite chose que les protestants ne voient pas. En réalité, ils ne veulent pas le voir. Et en voici un autre qu'ils ne voient pas, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Vous ne croyez pas que vous allez naître dans la famille de Dieu et être Dieu? Jésus-Christ était et est Dieu, et nous allons avoir des corps comme celui de Christ. 1 Jean 3, 2 nous dit, « Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Donc, si vous êtes semblables à Dieu et que vous avez un corps comme celui de Dieu, que vous avez la vie éternelle, mais que vous ajoutez tous les autres versets qui disent que vous allez avoir l'autorité sur les nations et que vous allez régner sur elles, et qu'en plus Christ nous appelle ses frères, sans compter que nous avons tous le même Père, et qu'on peut lire également « duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre », cela signifie que nous allons être Dieu. Ce n'est pas vraiment difficile de voir cela. Alors, c'est ce que je viens de dire, c'est juste à partir de quelques versets comme ça, là. C'est pas quelque chose que j'ai même dans mes notes. Et ce sont des choses qui sont tout à fait élémentaires, et il y a nombre d'autres versets qui expliquent davantage. Alors, nous aurons donc un corps absolument extraordinaire. Et en passant, ça ne sera pas au ciel. Nous pourrons y aller au ciel si nous voulons, parce que nous allons pouvoir aller n'importe où dans l'univers, et cela à la vitesse pensée. C'est la vitesse à laquelle n'importe quel esprit est capable de se déplacer dans l'espace, lorsque vous avez un corps comme celui de Dieu. Et, ou, si vous voulez, en tant qu'esprit, nous serons omniscients, omniprésents et omnipotents. Nous n'aurons pas la même puissance que le Père, bien entendu, parce que nous allons être d'un rang inférieur. Donc, on poursuit, semblable au corps de sa gloire, verset 21, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, une fois ceci dit, nous n'avons pas de temps pour le chapitre 4, malgré que celui-ci peut faire l'objet de son propre sermon. Et c'est ce que nous ferons un certain jour. Et nous allons nous arrêter ici.